à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg en direct de la capitale américaine, vendredi 8 mars 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel, au sommaire ce soir.
8 mars, journée internationale de la femme, nous ferons le point sur les manifestations en Afrique et dans le monde.
Les manifestations continuent également en Algérie contre le cinquième mandat du président Bouteflika.
Dernier jour de campagne en Guinée-Bissau avant les élections législatives de dimanche.
Nous irons à la rencontre de Moumina Hossein Darar, une Djiboutienne qui a reçu le prix Femme de Courage au département d'État à Washington.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée aujourd'hui, vendredi 8 mars, une série d'événements ont eu lieu en Afrique. Nous faisons le point avec Jacques Aristide.
De Dakar à Yaoundé, en passant par Djouba et Nouakchott, la journée est marquée par des manifestations, des réunions, des initiatives et des concerts. Au Burkina Faso, les femmes portent le faso d'Anfani. Pain tissé dans le pays est source de revenus réguliers pour de nombreuses Burkinabés. À Madagascar, le 8 mars est un jour férié pour toutes les travailleuses. Une journée qui permet de braquer les projecteurs sur toutes ces femmes courage, comme Grace Losio. En dépit de la pauvreté et de la guerre dans son pays, cette Sud-Soudanaise veut aider les futures mères de son pays à ne pas mourir en couche. Grace forme autant de sages-femmes qu'elle peut.
Je suis fière d'aider mes compatriotes sud-soudanaises.
L'occasion également pour 45 femmes activistes de 15 pays africains d'adresser une lettre ouverte aux dirigeants mondiaux. Au rythme actuel, écrivent-elles, il faudra encore 108 ans avant d'en finir enfin avec les inégalités de genre dans le monde. Elles leur demandent d'aller au-delà des beaux discours pour les femmes et les filles vivant dans l'extrême pauvreté. En Mauritanie, elles sont bien décidées à ne pas se satisfaire d'un non. Malgré les revers au Parlement, les militantes des droits des femmes se battent pour une loi contre les violences envers les femmes. Une journée qui met également en exergue les success stories et les égéries à l'image de la Camerounaise Aïssa Doumarangan Tansou qui gère une association d'aide aux victimes de viols et de mariages forcés dans son pays et qui a reçu ce vendredi le premier prix Simone Veil. Ouramata Li Bakayoko, première ivoirienne à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris, ou encore Bouchra Baybanou, cette Marocaine de 50 ans, la première de son pays à conquérir les plus hauts sommets du monde.
Et cette journée du 8 mars pour les droits des femmes a été célébrée dans le monde par des manifestations ou des séances de réflexion. On fait le point avec Abdourahmane Dia.
En Grèce, un arrêt de travail de 3 heures a été observé ce vendredi par les hommes et les femmes dans de nombreuses administrations publiques à l'appel des syndicats. Une première selon le mouvement du 8 mars, une initiative féministe grecque. À l'instar des Espagnols qui, pour la deuxième année consécutive, sont en grève pour défendre leurs droits, les Grecs ont décidé cette année d'imiter cette initiative visant à mettre en évidence les discriminations et le sexisme à l'endroit des femmes. En Grande-Bretagne, la militante Caroline Criado Pérez a choisi ce 8 mars pour la sortie de son livre « Invisible Woman » qui est déjà largement commenté sur les réseaux sociaux. Elle y dénonce, je cite, « un monde conçu pour les hommes et dont les femmes paient le prix ». De l'urbanisme à la politique, de la vie quotidienne au design, l'auteur a voulu montrer à quel point les préjugés sexistes déforment les données prétendument objectives qui régissent de plus en plus nos vies. Enfin, au Pakistan, les célébrations du 8 mars ont été marquées par l'hommage à un Pakistanais qui a été abattu cette semaine pour avoir dénoncé ce qu'on appelle là-bas un crime d'honneur. Son tort, avoir dénoncé dans ce pays très conservateur l'assassinat de femmes qui était apparu en 2012 dans une vidéo de mariage où elle s'amusait aux côtés des hommes.
Et nous reviendrons sur la Journée internationale de la femme dans la seconde partie de cette édition avec 2 reportages au Togo et en République centrafricaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ce soir, dans l'actualité africaine, nouvelle journée de protestation en Algérie. Des milliers de personnes défilent dans le centre d'Alger et dans les grandes villes du pays pour un troisième vendredi consécutif contre un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Raïssa Girondin.
Ces nouvelles manifestations ont coïncidé avec la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et nombre d'entre elles figuraient parmi les manifestants défilant dans le calme au cri de « pouvoir assassin » ou « pas de cinquième mandat Bouteflika ». La mobilisation était largement supérieure à celle des manifestations des deux derniers vendredis à Alger. Aucun incident n'a été signalé. Initialement présents en nombre, les policiers se sont contentés d'observer avant que plusieurs camionnettes de police ne commencent à évacuer la place. D'autres manifestations ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment à Oran et Constantine. Les Algériens n'ont, semble-t-il, pas été impressionnés par le message que leur a adressé jeudi M. Bouteflika, hospitalisé en Suisse et dont le retour au pays n'a toujours pas été annoncé. Dans ce message, à l'occasion du 8 mars, le chef de l'État a agité le spectre du chaos et dénoncé, sans les nommer, les ennemis insidieux et ceux qui conspirent contre l'Algérie.
Les Bissau-Guinéens se rendent aux urnes dimanche pour élire leurs députés. Le dernier jour de la campagne a été endeuillé par la mort de 6 personnes dans un accident de circulation. Les précisions avec Ekia Badou.
L'accident est survenu à Mambolko, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, entre un véhicule du parti africain pour l'indépendance de la Guinée, du Cap-Vert, et un car transportant des passagers, selon un responsable national des transports routiers. Le choc était tellement violent que le car a pris feu, laissant peu de chance aux passagers, dont 6 sont morts, a précisé ce même responsable, qui a fait également état d'un nombre indéterminé de blessés. 21 partis sont en lice pour le scrutin de dimanche. Celui-ci doit permettre de sortir ce pays d'Afrique de l'Ouest de plus de 3 ans de crise entre le président José Mario Vaz et la direction du PAIGC, vainqueur des élections de 2014 et dont il est pourtant issu. Nous allons gagner pour changer la situation en Guinée-Bissau. Le PAIGC a fait beaucoup d'années au pouvoir, mais il n'y a pas d'école, pas de travail, a déclaré Fernando Cabral, un partisan du MADEM. La campagne a été émaillée d'accusations d'irrégularité sur les listes électorales.
Direction la RDC à présent, des experts onusiens ont plaidé pour un désarmement réel au Kasaï. Les deux experts recommandent que le mouvement des miliciens qui commencent à déposer spontanément leurs armes soit accompagné. Selon eux, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces armes ne soient plus utilisées et pour que les combattants ne se sentent pas obligés de retourner au combat.
En République du Congo, 6 policiers ont été jugés coupables de la mort de 13 jeunes dans un commissariat de Brazzaville en juillet 2018. Ils y avaient été placés en garde à vue après leur interpellation lors d'une opération de la police dans un quartier de Brazzaville pour traquer des délinquants, selon les termes des forces de l'ordre.
Le reste de l'actualité dans le monde, Syrie, les derniers djihadistes du groupe État islamique étaient repliés dans un campement au bord d'une rivière dans l'est de la Syrie ce vendredi. Ils sont assiégés par des forces soutenues par Washington qui s'apprêtent à leur livrer une ultime bataille. Des milliers d'hommes, femmes et enfants, dont de nombreux blessés et éclopés, fuient encore le village de Baghouz.
Et en Syrie toujours, la Turquie et la Russie vont entamer aujourd'hui des patrouilles dans le nord-ouest du pays, à Idlib. C'est ce qu'a annoncé le ministre turc de la Défense. Idlib est contrôlé par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham, une organisation formée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.
Afghanistan, nouveau bilan pour l'attaque au mortier qui a visé jeudi à Kaboul, une cérémonie à laquelle participaient de nombreux hauts responsables politiques. On compte désormais 11 morts et 95 blessés. Le gouvernement affirme que l'attentat a été perpétré par des terroristes talibans alors que le groupe État islamique avait revendiqué l'attaque.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump affirme que ses adversaires démocrates sont devenus un parti anti-Israël et anti-juif après les propos d'une élue musulmane concernant le soutien des États-Unis à Israël.
Et puis au Venezuela, le gouvernement a suspendu la journée de travail et les cours en raison de la gigantesque panne d'électricité qui touche le pays depuis la veille. Caracas qualifie cela d'acte de sabotage.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Kiro Games, une entreprise fondée par le jeune promoteur camerounais Olivier Guillaume Madiba, spécialisée dans le développement du jeu mobile, veut lever $1 million pour positionner la société et son projet dans sa prochaine phase de développement. Ecofin, qui révèle l'information, écrit que cette opération est une ouverture de capital qui permettra à des investisseurs en quête d'opportunités de croissance rapide et de sortie rentable de pouvoir se positionner. Le Zimbabwe veut supprimer une loi qui interdit aux sociétés étrangères d'extraction de platine de contrôler leurs opérations. Cette loi sur l'émancipation économique des Noirs, adoptée sous Robert Mugabe, limite les activités des mineurs étrangers de platine et de diamants à 49%. Elle vise à accroître la part des Zimbabwéens noirs dans les mines, mais les investisseurs étrangers dénoncent des difficultés et des abus dans sa mise en œuvre. Le Zimbabwe détient la deuxième plus grande réserve de platine au monde après l'Afrique du Sud. Pour terminer, la Tanzanie ordonne à Acacia Mining de mettre un terme à la pollution des eaux usées de sa mine d'or de North Mara d'ici le 30 mars, sinon ses installations seront fermées. North Mara est la plus grande mine d'acacia. Elle a produit 336 055 onces d'or l'an dernier, soit 65% de la production de la société selon le rapport annuel d'Acacia. Elle fait depuis longtemps l'objet d'accusations de pollution, ce qu'Acacia Mining avait précédemment démenti.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Cameroun de Rigobert Song qualifié par forfait pour la CAN des moins de 23 ans.
Oui, adversaire des Lionceaux U23 pour le deuxième tour, la Sierra Leone se trouve toujours sous le coup d'une suspension de la FIFA pour ingérence gouvernementale et la CAF a informé les deux fédérations que les Lone Stars sont par conséquent disqualifiés. A priori, Rigobert Song devrait tout de même profiter de cette date FIFA pour organiser un rassemblement et des matchs amicaux. Rappelons que la sélection senior de la Sierra Leone a aussi été disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2019.
Pas encore qualifié et en préparation, le Mali a battu le Burkina en match amical.
Oui, les Aiglons ont dominé les étalons espoirs 2-0 hier au stade Modibo Keïta de Bamako. Le retour est prévu pour ce dimanche 10 mars, toujours dans la même enceinte. Le sélectionneur du Mali se satisfait de ce match test aller face au Burkina Faso.
Ce que nous fallait aujourd'hui, c'était la victoire pour nous mettre en confiance. Je pense qu'on l'a fait. C'est vrai, il y a eu beaucoup de déchets, surtout sur le plan offensif. Et même défensivement aussi, il y a eu des erreurs que nous allons corriger. C'est un début, c'est pas mal. On ne peut pas tout reçu. Mais ce qui a été bon quand même, il faut le dire, c'est qu'offensivement, nous avons pesé. Nous avons raté beaucoup d'occasions. Nous avons marqué deux buts, nous avons gagné le match. C'est une préparation qui débute. Et je pense que nous avons encore le temps avant l'arrivée des expatriés pour nous renforcer.
Fanieri Diarra, sélectionneur du Mali au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, qui a aussi recueilli les propos du coach burkinabé, Brahma Traoré.
C'est vrai que ce soir, il y avait par moments de bon rythme, mais nous souhaiterons en tout cas que le match de dimanche soit un match vraiment très tendu, avec un rythme vraiment très infernal. Nous allons en tout cas imposer ce rythme à l'équipe malienne, surtout que nous avons remarqué que vers la fin de la partie, elle n'existait plus physiquement. Nous pensons devoir faire ce travail-là pour qu'elle puisse comprendre également qu'il y a un manque à gagner de ce côté.
Brahma Traoré, sélectionneur des étalons des moins de 23 ans. Rappelons que l'équipe nationale olympique du Mali jouera contre les Antilopes de l'Éthiopie un match aller le 23 mars à Addis Abeba et le retour se fera à Bamako le 26 mars. Cette double confrontation compte pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans Égypte 2019. Le Burkina Faso a lui été éliminé au tour précédent par le MENA Espoir du Niger.
Nouveau trouble pour la Roma avec le départ de son directeur sportif.
Oui, Monchi a quitté le club au lendemain du limogeage de l'entraîneur Eusebio Di Francesco. L'AS Rome a été éliminé mercredi dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et seulement cinquième du championnat. L'Espagnol, âgé de 50 ans, s'en va d'un commun accord près de deux ans après son arrivée. La Roma, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, a nommé son successeur Frédéric Massara en attendant toujours la nomination d'un futur entraîneur qui pourrait être Claudio Ranieri, à en croire certains médias italiens.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Nous terminons aujourd'hui notre série consacrée aux conditions de vie des femmes sur le continent. Aujourd'hui, nous nous rendons en République centrafricaine et au Togo. En RCA, pour commencer, les femmes ont célébré ce vendredi 8 mars dans un esprit de lutte pour leurs droits. Malgré l'adoption de la loi sur la parité, l'application pose encore problème. Ces femmes veulent leur participation dans les instances de prise de décision. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Pour un pays comme la République centrafricaine qui sort encore d'une crise complexe et destructrice, les femmes ne veulent pas rester en marge des processus de prise de décision. À l'occasion de ce 8 mars, elles ont organisé plusieurs débats à travers le pays sur le rôle de la femme dans la reconquête de la paix et le relèvement. Pour la première dame Brigitte Ouadéra, les femmes doivent innover pour participer au développement.
Innover dans notre contexte actuel signifie développer des stratégies de paix dans nos communautés. La femme doit penser autrement pour des actions de changement là où elle se trouve. La Journée internationale de la femme est également une occasion non seulement de célébrer la femme dans toutes ses dimensions sociales, économiques et politiques, mais aussi de réfléchir sur tous les enjeux et les problèmes que les femmes rencontrent dans la vie quotidienne.
Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement, ce thème était au centre d'une réflexion organisée à Bangui par la Fondation Mamandoyo pour le développement. Virginie Guinaoui n'a pas lien, membre de cette structure.
La femme, c'est le pilier. Il faut que la femme se lève. Il est temps pour la femme pour se battre. Si nous nous battons bien, ce pays va se relever. Et je demande à toutes les femmes, y compris nos enfants, nos filles, de se battre dans la vie. Et il faut que les femmes aident les filles à aller à l'école. Même les femmes qui ne sont pas alphabétisées, il est temps pour elles d'aller à l'école. Elles peuvent aller à l'école s'instruire.
Innovation, participation au développement, tout cela doit passer par le respect des droits des femmes. C'est ce que l'Association des femmes juristes de Centrafrique a enseigné ce vendredi à quelques femmes. Karine Fornel-Poutou est sa présidente.
C'est d'attirer l'attention de la communauté internationale et nationale et surtout les femmes sur leurs conditions. Surtout en ce qui concerne la participation de la femme dans les instances de prise de décision, son autonomisation économique et aussi sa participation en ce qui concerne la paix.
Pour mieux participer au relèvement et à la consolidation de la paix en Centrafrique, les femmes réclament plus de participation au sein des instances dirigeantes. Monique Nali, coordonnatrice du mouvement des survivantes de Centrafrique.
C'est pour éveiller les femmes à faire le plaidoyer auprès du gouvernement, auprès de l'Assemblée nationale, auprès de nos grandes institutions pour l'inclusion totale de toutes les survivantes des conflits armés dans notre pays, dans la mise en œuvre de la consolidation de la paix et du relèvement national.
Cette journée du 8 mars est aussi célébrée dans les autres villes de la République centrafricaine à travers des échanges et des manifestations socioculturelles. Freeman Sipila, Bangui pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Togo, un challenge assez particulier vise à renforcer la solidarité féminine. Forza Sisters, qui est un mot composite d'italien et d'anglais, veut dire force aux sœurs. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
En juin 2018, la blogueuse togolaise Mika Fiakwe a initié sur les réseaux sociaux le challenge Forza Sisters. Le dit challenge consiste à parler du parcours de jeunes femmes togolaises, une manière de les faire découvrir au grand public.
Forza Sisters, c'est un challenge où il s'agissait en fait pour les femmes de présenter trois autres femmes, de présenter leurs actions dans l'entrepreneuriat, dans la défense des droits humains, etc. Et de dire pourquoi est-ce que ces femmes nous inspiraient ou pourquoi est-ce qu'on les admirait. Ensuite, vous devez encore choisir trois autres femmes pour qu'elles fassent le même exercice. Alors, j'ai nominé Judith Baliboa, qui est une conseillère en images.
Judith Baliboa Larré parle de l'impact de ces challenges sur sa vie professionnelle.
J'étais même pas sur place lorsque Forza Sista a été lancé sur la toile. J'étais un peu déconnectée pendant des jours. Puis un jour, lorsque j'ai fini par me connecter, j'ai vu le truc. Et puis je voyais que ça parlait des femmes qui faisaient des choses vraiment très très intéressantes. Et je suis tombée aussi sur des personnes qui ont parlé de moi. Et vraiment, c'était très impressionnant. Ça donnait même la chair de poule. C'est un peu comme si on apprenait à se connaître soi-même. J'avoue que ça a porté un coup sur ma profession. Et ça m'a un peu mise en avance aussi parce que beaucoup de personnes m'ont connue à travers ces posts.
Les femmes togolaises sont appelées à renforcer la solidarité afin de mettre fin à la rivalité au sein de la gente féminine. Fallon Alognon, une sista.
Faza sista, c'est le fait d'être ensemble avec la même idéologie, de faire les mêmes combats, de se soutenir, peu importe le domaine dans lequel chacune de femmes évolue. Déjà, voir une amie écrit sur soi, c'est motivant dans le sens où on ne veut pas décevoir cette personne, on veut pouvoir continuer à être cette personne que l'autre voit, surtout être solidaire. Et ce qui est formidable, c'est cette nouvelle génération qu'on est, qui croit en l'autre, qui veut voir l'autre réussir, qui veut être avec l'autre.
Cet engagement des femmes à se soutenir doit aussi inspirer les hommes, pense Didier Kissaudet, qui se définit comme un ambassadeur du genre.
Forza Sista a apporté un changement de mentalité à l'endroit du genre féminin et aussi du genre masculin. Un exemple vraiment palpable de le faire également entre nous, les hommes, puisque il y a un sérieux problème d'ego masculin qui s'oppose dans le soutien qu'on peut faire à un autre homme.
La communauté des Sistas est composée aujourd'hui d'une cinquantaine de jeunes dames.
Forza Sistas, c'est un mélange de deux langues. Donc Forza pour force en italien et Sistas pour dire sœur en anglais. Et donc Forza Sistas pour dire force à nos sœurs.
Force à vous les sœurs. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
Moumina Hossein Darar, 28 ans, fait partie des 10 femmes ayant reçu le prix Femme de Courage décerné par les États-Unis. Elle est la seule femme chargée d'enquête dans la cellule antiterroriste de la police nationale de Djibouti. Ekia Badou l'a rencontrée au département d'État hier à Washington après la cérémonie de remise des prix.
Je ne m'attendais pas à ces prix, mais je suis très fière d'être parmi ces femmes de courage qui ont fait preuve de leur travail.
Alors vous êtes très fière d'être parmi ces femmes de courage. Est-ce que vous nous parlez un peu de ce métier que vous faites, qui n'est pas un métier où on trouve forcément beaucoup d'hommes?
En fait, premièrement, je suis née d'une famille nombreuse d'hommes. Je suis seule et j'ai une petite sœur encore. J'ai six autres frères, c'est pour ça que je suis entourée des hommes. Et c'est facile pour moi de continuer ce travail, d'engager avec mes collègues.
Dans un pays où les femmes ne sont pas toujours mises en avant, est-ce que ça a été facile pour vos frères de vous encourager, pour votre maman de vous encourager vers cette voie?
Premièrement, ma mère et mes petits frères plutôt. Elles sont très fières que j'effectue cet emploi et ils m'encouragent.
Djibouti aussi est fier de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes pour les encourager aussi à ne pas avoir peur et à faire des métiers qui ne sont pas forcément là où on les attend? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil pour qu'elles puissent aussi voir votre exemple comme un autre modèle?
Je vais les dire, les femmes djiboutiennes, surtout, nous avons une tradition qui dit que les femmes doivent rester au foyer. Je veux dire que cette proverbe n'est pas valable. Il faut continuer, il faut sortir de la maison, il faut partir en avant. La femme peut faire ce qu'elle veut. La religion ne nous empêche rien. L'encouragement de celle-ci pourrait contribuer énormément à l'éradication de la planète de ce fléau appelé communément terrorisme et qui est conduit par une minorité de religieux de tous bords qui lui est imposée par la force. L'ère vidéo de notre âge.
Qu'est-ce qui vous a attiré vers la lutte contre le terrorisme?
C'est venu très jeune pour moi.
Pourquoi?
Parce que le terrorisme est un fléau international, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de religion particulière. Donc, lutter contre ce terrorisme, et nous sommes aussi localisés dans une zone qui est plutôt occupée par des terroristes.
J'ai vu que vous travaillez dans une ONG, vous avez aidé des familles où il n'y avait pas beaucoup de revenus. Comment faire pour vous aider encore à aider d'autres familles?
En fait, c'est une petite association qu'on a récemment créée, moi et mes collègues. Donc, cette association n'a pas encore un statut. On va lui faire un statut. C'est aider les jeunes orphelins et les pauvres, surtout les enfants, femmes et hommes.
C'était Moumina Hossein Darar, chargée d'enquête de la cellule antiterroriste de la police nationale de Djibouti. Elle était au micro d'Ekia Badou après avoir reçu le prix Femme de Courage.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En cette journée mondiale des droits de la femme, de nombreuses associations montent au créneau pour sensibiliser sur les violences sexistes et le harcèlement sexuel. Partie des États-Unis en 2017 avec l'affaire Weinstein, les mouvements MeToo ou Time's Up engrangent sur Twitter un nombre impressionnant de témoignages de victimes dénonçant ce fléau universel. Et récemment, les Africaines se sont invitées dans le mouvement en créant lors du FESPACO le hashtag « Même pas peur ». Pour une analyse, Nathalie Barge, adjointe ici à Washington, Aïssata Thiam, consultante engagée dans la cause féminine.
Il y a eu le monde du cinéma, de la mode, de la politique, plein de personnalités qui ont été éclaboussées. Et il y a eu beaucoup de démissions ou de démentis par rapport à ça. Bon, en tête d'affiche, les scandales dans le milieu ecclésiastique aussi aux États-Unis, en Australie, en France, des évêques qui sont pénalement responsables d'actes sexuels. Et il y a le documentaire de HBO sur Michael Jackson. Moi, je me dis, le MeToo, ça ne s'adresse pas simplement aux femmes qui ont été agressées, mais du coup, même les enfants ou des jeunes, des hommes qui sont agressés, ils viennent un peu plus parler de ce qui leur est arrivé il y a beaucoup d'années. Et puis, je voulais parler de cette sénatrice, la Martha McSally, qui, elle, après presque 30 ans de service dans l'aviation américaine, elle a avoué qu'elle aussi, elle a été agressée par ses supérieurs. Et puis, il y a le mouvement Time's Up. Maintenant, où ils ont pu collecter des millions et des millions de dollars pour pouvoir aider un peu à la défense des femmes qui ont été agressées et qui veulent porter plainte.
Est-ce que vous pensez que ces mouvements font évoluer les mentalités?
Bon, maintenant, le silence, je pense, sera de moins en moins. Les gens auront plus tendance à se plaindre dès qu'ils sont victimes. C'est aussi bien du côté des femmes que du côté des hommes qui feront attention maintenant dans leur comportement, c'est sûr, aussi bien dans le milieu familial que dans le milieu professionnel. Et les femmes auront plus tendance à ne pas se taire.
Est-ce que selon vous, ce mouvement permet de faire évoluer la justice en ce qui concerne le harcèlement sexuel aux États-Unis?
Absolument, parce que là maintenant, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le fait que les gens se rendent compte qu'il faut écouter les victimes et il faut leur donner beaucoup de crédibilité. Mais non seulement cela, mais aussi ce que les autres penseront d'un jugement qui sera en défaveur des victimes. Donc les gens font beaucoup plus attention quand ils font les rendus de justice.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir fusion entre toutes ces femmes du continent africain, ces femmes des États-Unis et du monde entier en ce qui concerne cette lutte?
La condition pour cela, c'est qu'il y ait un certain leadership. Il faut que la volonté soit clairement exprimée de vouloir fédérer tous ces différents mouvements de MeToo, de Balance ton port et même pas peur. Mais au moins avoir des rôles modèles pour ce nouveau mouvement, ça va aider parce que le chemin a été déjà balisé.
Alors vous avez justement dit à propos du leadership, est-ce que le problème finalement, si l'on peut dire, est le fait que ces mouvements n'ont en fait pas de leadership?
Oui, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens et ça, c'est au détriment de l'efficacité du mouvement en tant que tel. Mais en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de leadership, un peu, je peux comparer ça au mouvement des Gilets jaunes en France. Je pense que ça a quand même une certaine force.
Voilà, c'était Aïssa Tatiam, consultante en informatique à Washington.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Patrick Lumumba, présentation Morgane Guiriec et Claire Morin-Gibourg.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.